Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Et aujourd'hui, vous allez l'entendre, les dealers sont dans le pré.
Enquête sur le trafic de stupéfiants en zone rurale. Alors le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'amplifie un peu plus chaque année.
Le trafic de drogue à la campagne, dans quelle mesure justement s'amplifie-t-il? Est-ce que toutes les régions sont concernées? C'est ce que l'on va tenter de comprendre dans ce Focus. Avec vous, Marie-Laure Pesan, porte-parole de la Gendarmerie nationale, bonjour.
Bonjour.
Et avec toi, Maxime Lévy, journaliste au service police-justice de RTL, bonjour.
Bonjour.
Parce que tu t'es rendu récemment dans une de ces petites communes, hein, désormais touchées, dans le Pas-de-Calais, à Dèvres, 5000 habitants. Alors, j'ai regardé un peu sur Internet, le cadre a l'air assez verdoyant, une petite ville nichée au cœur de la forêt. On est où là exactement?
C'est exactement ça, on est un peu perdu dans les champs, on est à une vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer, donc on est un petit peu éloigné du littoral. C'est une petite commune, disons, d'une... assez grande par rapport au petit village qui est autour, mais vraiment c'est des tout petits villages. On a des petits villages de 200 habitants, on a des champs, des élevages porcins, on a voilà, c'est assez perdu dans la campagne, c'est pas vraiment sur le littoral et on est vraiment un petit peu isolé, très isolé du reste des autres communes.
Et dans les rues de cette ville, tu as rencontré Maurice et voici ce qu'il t'a raconté.
Beaucoup de trafic, beaucoup de personnes qui consomment énormément sur Dev, voilà, tout simplement. Et nous, on le voit, hein, en tant que piéton dans la commune, quand je vais faire mes courses ou ça, témoin de personnes qui ont les yeux déjà retournés, des gens qui tremblent, des gens qui titubent sur la voie publique. On connaît quelqu'un qui prend du stupéfiant. Les gens jettent dans les buissons et quelqu'un passe ramasser.
Ça ressemble à quoi?
C'est malheureusement que c'est des boulettes. Des boulettes. Et après, ils consomment chez eux. Après, ils consomment chez eux. Mais ils ramassent dans la rue. Et après, ils consomment chez eux.
Donc Maurice, c'est un habitant de la commune, c'est ça Maxime?
Oui, c'est même le gérant d'un café de la commune, donc c'est quelqu'un qui voit passer beaucoup de monde, qui fait attention à ce qui se passe un petit peu sur sa commune, qui fait attention à ce qui se passe devant son café, et lui effectivement remarque, lui il dit que ça fait plusieurs années, bon lui il parle même que Dèvres est une plaque tournante, bon c'est un petit peu peut-être exagéré, mais en tout cas lui est témoin de consommation, de vente dans sa commune, et lui parle de plusieurs dizaines d'années que ça existe, que ce soit du cannabis ou même d'autres drogues un peu plus dures.
Oui, parce que justement il parle de boulettes, hein, Maurice, c'est ce qu'il te disait quand tu l'as rencontré, Marie-Laure Pesan. C'est principalement du cannabis qui circule dans ce type de commune où on trouve de tout et notamment des drogues dures aussi en zone rurale.
Alors en zone rurale ou en zone périurbaine, puisque la gendarmerie s'occupe de toutes ces zones-là, on retrouve tous les types de produits. On n'a pas de spécificité, même d'un territoire à l'autre, finalement, d'un département à l'autre, on peut trouver tout type de produits.
Donc la cocaïne, l'héroïne également circulent, le crack, que
exactement.
Sais-je encore?
Les drogues de synthèse, le cannabis, on a tout type de drogues, effectivement.
Alors le fait que ces drogues se déploient désormais au-delà des grandes villes, est-ce que c'est nouveau? C'est récent? Comment l'explique?
Alors non, c'est pas quelque chose de récent. Effectivement, depuis, ça fait quelques temps déjà qu'on a des stupéfiants dans les zones qui sont moins urbaines, on va dire. Mais on a assisté à une évolution du trafic. Jusqu'à présent, on était sur du trafic un peu plus classique, j'ai envie de dire, avec les mouvements de population, puisque en zone gendarmerie, depuis 10 ans, on a pris 2 millions d'habitants supplémentaires. Dans les 7 années à venir, on a encore 1 million d'habitants qui est annoncé en supplément par l'INSEE. Donc on a cette augmentation de la population, des flux donc du coup aussi qui sont augmentés, une délinquance qui accompagne ces mouvements et donc des stupes plus présents puisque ça augmente au niveau de la demande. Et on a également des nouveaux modes d'action. Par exemple, on a du stockage de produits stupéfiants dans les zones un peu plus rurales. On a aussi de la cannabiculture, puisque certains dealers pensent être un peu plus préservés des vues en cultivant eux-mêmes le stupéfiant.
Oui, on se dit qu'on est plus discret à la campagne, donc on pourra stocker et produire davantage. Vous parliez des mouvements de population. Ces 2 millions de personnes supplémentaires, ce sont des urbains qui sont venus s'installer, par exemple, après le Covid et qui sont venus avec leurs habitudes de citadins. C'est ça aussi le constat?
Alors, on a une partie qui est comme ça, mais on a aussi des mouvements de population générations qui peuvent avoir envie d'être un peu plus en province, trouver du travail en province. Donc on a ces mouvements de population, une volonté d'avoir une qualité de vie différente peut-être. Et donc effectivement on a cette augmentation-là. On a les métropoles qui s'étendent aussi de plus en plus. Donc tout ça fait qu'il y a une transformation aussi, une évolution du trafic de stupéfiants.
Ouais, le trafic donc à la campagne évolue, progresse aussi. Et pourtant, toi-même, tu l'as constaté hein, à Dèvres, Maxime, les habitants n'en ont pas toujours conscience. On a entendu Maurice, lui, il l'a vu. Mais d'autres, la plupart, en fait, n'ont pas idée de l'ampleur du trafic.
Non, non, il n'y a pas de zone bien particulière. Je pense que c'est vraiment discret et ça se fait... Moi, ça se fait sur un parking ou autre. Hein.
Si dans la région, ça existe, il y en a, mais je trouve que c'est encore discret. Il y a de la petite délinquance, mais au niveau de la drogue, pas que je sache. J'ai pas vu des jeunes vraiment se droguer dans le coin, quoi, je dis.
Alors toi, à Dèvres, Maxime, quand tu y étais, tu as vu quoi ?
Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai pas vu grand-chose. on a entendu Maurice, donc il a vu lui beaucoup de choses, mais il est là un petit peu tout le temps, il reçoit beaucoup de monde chez lui. Et là, on entend des habitants qui effectivement, et c'est un peu le cas de la plupart des habitants que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, ils ne voient pas grand-chose. C'est très discret. Il y a même un habitant qui allait beaucoup plus loin que lui, qui raconte que ah non, le trafic de stupéfiants, non, dans ma ville, il n'y en a plus. C'est terminé. Oui. Ça n'existe plus depuis longtemps. Et il n'y a pas de point de deal apparent. Il n'y a pas de guetteur. Il n'y a pas l'image qu'on peut avoir de personnes regroupées avec des canapés en dessous d'un bâtiment. C'est pas du tout ça. C'est très calme. C'est un village. Tout ce qui est de plus normal, perdu dans la campagne. Et pourtant, il y a de la circulation de produits stupéfiants.
C'est effectivement plus discret, en fait. C'est-à-dire que les dealers se disent « Ces zones, elles sont potentiellement intéressantes parce qu'on va y être plus discret. » C'est vraiment le cas.
Alors, c'est une idée qu'ils ont, effectivement, de se dire « Je vais peut-être en campagne, donc ça sera plus discret. » Mais en fait, c'est surtout qu'on a une configuration de l'habitat qui est différente. Donc, on a des habitations qui sont plus étendues, on a moins de barres d'immeubles, etc. Donc, il y a cette sensation d'être plus discret. Mais après, quand vous allez dans la campagne, les gens se connaissent. Les mouvements suspects sont plus visibles, finalement. Donc, on a aussi beaucoup de renseignements humains qui nous arrivent. Et même si on n'a pas de pointes de deal qui sont parfois très visibles, le renseignement nous permet d'identifier quand même les points qui peuvent être qui peuvent poser problème au niveau des trafics et donc qui nous permettent ensuite d'intervenir. Et puis on a aussi un rôle de contrôle de l'ensemble des flux, des axes et beaucoup de choses passent par la route, par les voies routières, mais pas que. Et donc en fait dans notre travail quotidien aussi, on peut détecter des stupéfiants dans des véhicules et on peut aussi avoir des gens qui nous signalent des faits.
On va revenir justement sur la question des contrôles routiers, mais Maxime, sur ce deal-là, cette vente de tous ces produits, elle s'organise comment à Dèvres où tu étais, par exemple ?
Et justement, c'est là où j'allais en venir également, c'est que le deal s'organise différemment que dans les grandes agglomérations. Il y a de la vente en appartement, il y a de la vente, c'est des points de deal, ça peut être des points de deal, mais vraiment qui durent une semaine, deux semaines sur un parking, ça va s'étendre ailleurs, c'est dans un petit jardin, il n'y aura pas de truc défini, de point de deal définitif. Et ce qui est très, très intéressant, c'est quand j'ai discuté avec le procureur de Boulogne-sur-Mer, ce qui m'a raconté, c'est que sur le littoral, même dans les petites communes du littoral, là où il y a des locations saisonnières, ce qu'il n'y a pas forcément dans les communes les plus rurales, plus reculées, là où il y a des locations saisonnières, des Airbnb, les dealers vont profiter de ces Airbnb, vont louer un appartement, une chambre pour une semaine, deux semaines, vont écouler leur production, leurs produits, leur héroïne, leur cocaïne ou leur cannabis et vont repartir ensuite. Et donc, ça fait que parfois, les points de deal, de ce que j'ai compris, en tout cas dans cette zone, peut-être très volatile, peut-être assez artisanal et ça complique peut-être un petit peu la tâche aussi des gendarmes.
Vous acquiescez.
Alors, on a cette partie-là et puis on a aussi, depuis le Covid, là, des évolutions, notamment beaucoup de commandes de stupéfiants via Internet. On a des messageries aussi qui vont être cryptées, qui vont permettre aux dealers d'organiser le trafic différemment. Ce qui fait que ça, c'est un mode d'action qui est un peu plus nouveau, on va dire.
Donc il y a même des livraisons à la campagne, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé dans certaines banlieues, ça existe aussi à la campagne et pas seulement en zone périurbaine.
Ça existe, c'est pour ça qu'on est très vigilant, surtout, on parlait tout à l'heure des flux, tous les flux, même le fret postal, la gendarmerie des transports aériens qui veille aussi au fret, savoir si on peut détecter des livraisons de stupéfiants par colis.
Mais alors, du coup, les dealers, qui sont-ils, Maxime ? Parce que, est-ce que ce sont des gens qui viennent comme ça de la ville pour une semaine et qui ensuite repartent, ou des gens réellement implantés dans le coin ?
Alors, ceux qui vendent, en tout cas dans la zone où j'étais, ce sont principalement des gens qui sont implantés. Ce sont des habitants, ce sont des hommes, principalement jeunes. Moi, on me disait, la récurrence, l'âge, c'est à peu près 28, 30, 32 ans. Ça peut être des actifs qui ont des petits boulots, mais qui souvent sont dans des situations quand même de précarité. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont donc des habitants qui vont avant tout être des consommateurs de stupéfiants, ça peut être du cannabis, ça peut être de l'héroïne, et qui vont se retrouver à en vendre pour payer leur dose. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ils vont petit à petit arriver au deal pour pouvoir se payer leur dose, et même pas forcément s'enrichir personnellement, en tout cas.
Et en fait, c'est en quelque sorte un engrenage, hein, c'est ce que t'expliquait le major Rémi Cotte de la brigade de recherche de Calais.
Il rentre finalement dans un maillage, dans une chaîne qu'il ne maîtrise pas. Et quand il arrive sur les grosses agglomérations, il n'est pas rare qu'il soit attendu par des gens beaucoup plus retaillés qui lui mettent une pression énorme. Ça peut aller jusqu'aux menaces de mort, ce genre de choses. Et on leur propose tout simplement de se rendre sur des grosses, encore plus grosses agglomérations comme Lille, voire Paris, où effectivement ils vont être amenés à se rendre à une adresse bien précise, où on va leur redonner les clés d'un véhicule qu'il va falloir rapatrier sur la petite agglomération. Et bien souvent, ce véhicule est chargé en produits.
Ce qui est assez intéressant, c'est que donc, voilà, c'est un engrenage, il parle d'engrenage, et vraiment, ces petits dealers sont encore plus, je dirais même que dans les banlieues des grandes agglomérations, des tout petits rouages de ces trafics. Ils vont avoir une pression encore plus folle et ils ne vont, je le disais un petit peu, mais ils ne vont pas s'enrichir. C'est-à-dire qu'ils vont tout ce qu'ils vont gagner va servir à payer leur dose. Et quand il y a, par exemple, c'est ce que me racontait le major Rémi Cotte, c'est quand il y a les enquêtes patrimoniales sur combien est-ce qu'il y a il y a eu des achats récemment de voitures de luxe, de sacs, etc., etc. Pas du tout. Ça va être des gens qui vont continuer de vivre dans la précarité, mais qui vont dealer pour pouvoir acheter leur dose.
Pour pouvoir continuer à se fournir. Alors, est-ce que toutes les régions sont concernées, Marie-Laure Pezon, ou est-ce qu'il y a un terreau plus fertile ? Je ne sais pas, si on est près d'une grande ville ou si on est dans une commune vraiment délaissée, socialement notamment ?
Non, toutes les régions sont concernées de la même manière. On a effectivement un phénomène quand on dézoome un petit peu par rapport à ce qui se fait dans le Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on a des phénomènes comme ça avec des personnes qui sont des individus qui, petit à petit, vont vouloir s'auto-subventionner, j'ai envie de dire. Mais on assiste aussi à une professionnalisation. C'est-à-dire qu'on commence comme ça, on va fournir ses copains et puis petit à petit, on va se rendre compte que c'est rentable, donc on va on va avoir un peu plus de logistique et donc ça va être de plus en plus quand même au niveau des régions, enfin dans les différents territoires, un trafic qui est plus professionnel. Mais dans toutes ces régions, on côtoie quand même deux types. On a, on va dire, les microstructures, voilà, qui sont plutôt sur un petit trafic un peu plus local. Mais on a aussi des réseaux organisés qui vont agir sur l'ensemble du territoire, qui vont faire des liens entre les régions et qui vont parfois interagir avec ces microstructures en leur demandant, par exemple, parfois de livrer des produits pour eux.
Donc c'est le territoire, finalement, c'est presque un maillage pour eux dans toutes les régions, au-delà de même des villes. Alors ce trafic, il faut évidemment le surveiller. Pas toujours évident dans ces régions-là. Et l'une des méthodes d'action privilégiées, hein, notamment à Dèvres, où tu étais, Maxime, c'est la présence des gendarmes au bord des routes, des contrôles routiers tu as pu suivre aux abords de la commune avec le major Cotte.
Dès lors qu'on a constaté une éventuelle conduite ou produit stupéfiant, il y a toute une procédure judiciaire qui se met en place. Mais ce n'est pas une finalité, parce que en fonction des résultats des analyses qui seront procédées, on va pouvoir, à l'issue, matérialiser formellement l'infraction et dès lors auditionner la personne en audition de mise en cause libre. Il faudra qu'il s'explique à la fois sur les circonstances de sa conduite sous stupéfiant, mais aussi sur le fait qu'il soit usager éventuel, plus ou moins avec une consommation importante quotidienne, etc. Et tout cela peut nous amener à rebondir sur un éventuel trafic dès lors que la personne commence à nous expliquer qu'elle a effectivement un fournisseur ou qu'elle-même peut être à la tête de revente. Et automatiquement, on va déboucher sur quelque chose d'une ampleur un peu plus importante.
Colonel Pezon, ça veut dire que toutes ces arrestations pour consommation ou pour détention de stupéfiants sur la route, elles peuvent permettre en bout de chaîne d'accumuler des renseignements pour éventuellement démanteler un réseau à la fin ?
Complètement. À partir du moment où on va détecter quelqu'un qui a du stupéfiant, on va ouvrir une enquête, on va ouvrir une enquête incidente. Parfois, quand on est sur une autre affaire, qu'on fait une perquisition, puis qu'on découvre du stupéfiant, on va ouvrir une enquête parce que effectivement, ça va nous permettre de remonter les réseaux. C'est important qu'on enquête sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le trafic de stupéfiants est finalement en lien avec toutes les autres formes de délinquance. Quelqu'un qui fait du stupéfiant, va y avoir peut-être parfois aussi de la violence autour de lui, des actes de violence, il peut y avoir du trafic d'armes, il peut y avoir des vols. Donc en fait, tout ça est très lié. Donc c'est important d'enquêter systématiquement.
Et ce que vous me disiez avant qu'on discutait un petit peu avant l'enregistrement, ce que vous me disiez, c'est que même parfois, quand vous allez faire de la sensibilisation, par exemple dans les écoles et les collèges, vous pouvez commencer à détecter des...
Oui. C'est vrai que notre action a plusieurs volets. On a le volet enquête judiciaire quand on détecte des stupéfiants, mais on a un volet prévention qui est très important. On va dans les écoles. Dans les écoles, ça permet déjà de sensibiliser les élèves aux risques, aux dangers des drogues. Et parfois, effectivement, ils vont nous signaler, ah bah tiens, à tel endroit, je crois qu'ils vendent ce type de produit. Ça nous permet d'avoir du renseignement. On en revient toujours à la même chose, la source humaine. Mmh. En fait, c'est les éléments qui vont nous être remontés, rapportés, qui vont nous permettre de nourrir notre enquête et d'avancer sur la lutte contre ces réseaux.
Et vous évoquez les violences liées au trafic de stupéfiants. C'est vrai que les conséquences peuvent être assez marquantes, même dans des zones rurales. Comme te l'a dit Maxime, le procureur de Boulogne, Guirec Lebrun.
Ça peut être des violences, ça peut être effectivement le fait d'enlever quelqu'un pendant un temps déterminé, de commettre des violences en même temps pour faire passer un message et ou pour recouvrer des dettes. Ça peut occuper n'importe quel territoire. Même sur des trafics de petite ampleur, on peut voir se développer ces phénomènes de violence et de séquestration.
Et un exemple assez marquant d'ailleurs, c'est que c'était l'année dernière, c'est un exemple assez frappant, il y a eu un homme qui était laissé pour mort, qui était enlevé et séquestré pendant une journée, qui était laissé pour mort à Marquise, une petite commune de 5000 habitants du Pas-de-Calais. Donc ça montre bien que voilà, même dans les petites communes, ça arrive.
Mais c'est Marseille dans les prés, colonel Pesant, c'est vraiment ça? Vous avez déjà eu ce genre de cas ailleurs?
On a ce type de cas un peu partout. Hein. C'est vrai qu'on a des méthodes maintenant qui sont employées pour intimider. Quand il y a des dettes de stup, il y a des méthodes violentes aussi qui peuvent exister. Donc on le détecte partout sur le territoire. C'est pour ça qu'aussi on est très actif dans cette lutte-là pour lutter contre les trafics. On a d'ailleurs l'année dernière, la gendarmerie a mené 500 000 opérations stupéfiants. C'est deux fois plus de points de deal aussi démantelés depuis 2021.
Des points de deal démantelés et des réseaux aussi démantelés sur ces zones rurales ?
Oui, tout à fait, des réseaux. De toute façon, après, il y a une vraie imbrication. C'est pas forcément... On peut avoir un réseau, mais qui ne va pas être forcément départemental. Ça peut toucher plusieurs départements. On a eu récemment aussi une enquête au mois de mars, par exemple, où on avait des dealers qui agissaient en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, qui agissaient sur plusieurs communes, en fait. Et on a démantelé ce trafic-là. On a 9 personnes qui ont été interpellées. Ça nous a conduit à 1,5 tonne de résine de cannabis. On avait 17 voitures saisies, 500 000 euros trouvés. Enfin, donc voilà, on en a un peu partout sur le territoire. Et c'est important d'agir aussi contre ces réseaux, plus à la tête du réseau.
La lutte donc contre le trafic de stupéfiants jusque dans nos campagnes. Merci à vous, Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Merci à toi aussi, Maxime Lévy, de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.